avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel+. Aujourd'hui, au sommaire, lutte contre Boko Haram, arrestation du chef d'Ansarou au Nigeria et mise en place de comités de vigilance dans la région du lac Tchad. Au Mali, visite ministérielle à Mopti pour écouter les inquiétudes des populations. En Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz veut briguer un troisième mandat. Enfin, le Sénégal a accueilli deux Libyens détenus pendant 14 ans à Guantanamo. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel+. Restez avec nous. Nous ouvrons avec la lutte contre Boko Haram. Au Nigeria, l'arrestation de Khalid al-Barnawi, chef du groupe islamiste Ansarou, est un succès pour l'armée nigériane et Muhammadu Buhari. C'est l'avis du docteur Oudou Oubdalaï Ayouba, professeur de sciences politiques et relations internationales à l'université Ahmadou Bello dans le nord du Nigeria. Au micro de Jacques Aristide, professeur Ayouba estime qu'il reste toutefois à établir la véritable influence de al-Barnawi sur le réseau terroriste du Nigeria. Écoutons le professeur Ayouba.
Les services secrets nigériens n'ont pas des informations concrètes sur ce homme-là. Donc, son lien avec Boko Haram, ce n'est que des à peu près.
Khalid al-Barnawi apparemment faisait le lien entre les groupes nigérians et ceux d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Était-il donc un maillon fort dans la nébuleuse islamiste nigériane?
Lorsque Boko Haram a commencé, il y a eu des spéculations que les dirigeants de Boko Haram ont été formés, que ce soit au Mali ou à la frontière avec l'Algérie. Il y a eu des déclarations de Chekao sur le rapport entre Boko Haram et le groupe du Maghreb islamique, c'est pas clair.
Cette arrestation représente-t-elle un gros coup pour les forces de sécurité et de défense nigériane contre le terrorisme?
Cette arrestation montre que le Boko Haram est un peu à déroute. Ça montre une différence entre ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant. C'est vrai, il y a eu des spéculations sur la déchéance de l'armée nigériane. C'était pas ça. C'était la décision politique qui empêchait les militaires de faire leur travail. Et depuis que la décision politique a changé, vous voyez, les militaires font vraiment leur travail. Et puis, ça montre l'état de l'armée nigériane. C'est une armée forte qui a manqué des moyens au début, et bien qui a des moyens, et puis maintenant on voit les résultats.
Donc pour vous, ce coup de filet est également le fruit de la nouvelle stratégie dans la lutte contre les groupes terroristes mis en place par le Nigeria depuis l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari?
Tout à fait, tout à fait. Il y a une autre stratégie, et puis ça paye puisque on a des résultats. Actuellement au nord, il y a un calme. Vous voyez, les gens sont rassurés. Puis les incursions de Boko Haram sont limitées. Le chef d'état-major qui est installé à Maiduguri, vous voyez, il mène les opérations depuis Maiduguri. L'action se passe à Maiduguri et puis dans l'état de Borno. Les militaires sont plus déterminés. Ils ont plus d'armes, plus de financement. On s'occupe d'eux. Il y a une coopération entre les agences de sécurité, que ce soit les services secrets, la police et l'armée. Même par rapport aux voisins du Nigeria, Niger, Tchad, Cameroun, il y a une coopération qui s'est mise en place. Puis ça produit des résultats. Il y a des progrès, il y a des progrès.
Le professeur Oudou Abdoulaye Ayouba était en ligne de Zaria dans l'état nigérian de Kaduna. Lutte contre Boko Haram toujours, mais dans la région du lac Tchad cette fois, les habitants ont mis en place des comités de vigilance malgré l'état d'urgence décrété depuis plusieurs mois. Notre envoyé spécial Bagassi Koura s'est rendu dans la ville de Bagassola. Écoutons son reportage.
Nous sommes ici au marché hebdomadaire de Bagassola. Ce samedi, vendeurs, acheteurs et habitants de la région ont convergé en masse ici Pourtant, il y a seulement 5 mois, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans 3 explosions kamikazes simultanées.
Il était 15h30 quand le premier détonement s'est fait entendre.
Lui, c'est Dimouya Souapébé, le préfet du département de Kaya, chef-lieu Bagassoula.
Bagassoula n'a jamais eu à l'idée un jour qu'il allait être attaqué par Boko Haram.
Au centre du marché, des restes de hangars calcinés, signe de la puissance des bombes artisanales. À ce jour, c'est l'attaque la plus meurtrière de Boko Haram sur le sol tchadien. On écoute le préfet de Bagassoula, Dimouya Souapébé.
Nous avions eu sur le coup 43 morts, mais y compris les kamikazes. 43 morts, 58 blessés.
Situé à quelques 200 km des frontières du Niger et du Nigeria, épicentre du groupe Boko Haram, Bagassoula a depuis pris des mesures drastiques pour se protéger. Des groupes d'autodéfense ont été constitués pour avoir accès au marché. Il faut désormais montrer patte blanche aux membres du comité de vigilance. Dans cette bourgade sous un soleil de plomb, ils procèdent à des fouilles corporelles à l'aide de détecteurs de métaux.
On fouille tout le monde. Si ton frère même, s'il est dehors, tu vas le fouiller.
Hassan Ahmad Mahamat est le président du comité de vigilance.
On commence à 6h30 à 18h. On a fait 6 mois ou 7 mois, on est ici. Matin, soir, on est là. Mais on a rien trouvé, mais on a soutenu, on a fait défendre notre pays, seulement notre village.
Selon le préfet Dimouya Souapébé, ce même dispositif existe dans tous les villages de sa circonscription.
Ce comité de vigilance, vous partez aujourd'hui dans tous les villages, quelle que soit la taille de ce village. Vous partez dans toutes les villes du département de Kaya. Vous y trouverez des hommes armés, en armes, pas en fusil. Nos populations n'ont pas de fusil. Mais ils s'arment en armes blanches. Ils sont devenus très vigilants, comme indique leur nom. Et ce sont ceux-là, aux côtés de nos forces de défense, ont fait, à l'heure où je vous parle, que nous espérions quand même que la sécurité est en train de revenir.
La région du lac est hautement militarisée. Sous la menace de Boko Haram, l'armée continue son redéploiement dans cette région placée sous état d'urgence depuis novembre 2015. À Bagassoula, dans l'ouest du Tchad, Bagassi Koura pour VOA Afrique.
Déplacement d'une délégation politique importante à Mopti, au Mali. 4 ministres et des députés ont bouclé une visite de 6 jours dans cette ville surnommée la Venise du Mali. Raison essentielle, écouter de vive voix les préoccupations des populations pour trouver des solutions appropriées. Notre correspondant à Mopti, Mamoudou Bokoum, fait le point.
Ils sont au nombre de 4 ministres et 4 parlementaires à effectuer une visite de terrain dans la région de Mopti. Objectif, écouter directement les préoccupations des populations. C'est une initiative du collectif des députés élus dans la région de Mopti. D'entrée de jeu, le gouverneur dresse la situation d'insécurité que vit la région avec un bilan triste. Kamang Kane.
45 morts, 30 blessés, 7 cas d'enlèvement de 11 motos, 8 téléphones et 2 716 500 francs CFA emportés. 8 boutiques cassées au cours de 23 attaques et 19 braquages en 2015.
Face à cette situation, les populations ont évoqué une batterie d'inquiétudes et de préoccupations.
C'est pour dire qu'aujourd'hui, Mopti est laissée à elle-même. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons partout l'insécurité, des attaques et des assassinats ciblés qu'il faut vraiment vaille éradiquer. Nous constatons vraiment l'absence de l'État et quand l'État est absent, les djihadistes avec les moyens conséquents qu'ils ont, ils vont occuper le terrain, ils vont nourrir nos populations, ils vont les financer.
En plus des préoccupations, la société civile mopticienne a également fait des propositions de solutions.
Doter rapidement le gouverneur de Mopti d'une caisse noire pour faire face aux renseignements. Les renseignements sont négligés. Et aux ordres de citoyens lambda a même peur de dénoncer les djihadistes pour ne pas être les prochaines proies. Collaborer avec tous les leaders religieux, les chefs de village, les chefs de hameaux et mettre en place des brigades de vigilance. Doter nos forces de l'ordre de moyens conséquents de mobilité. Autonomiser les marabouts avec leurs talibés pour éviter de servir les terroristes de terreaux de recrutement. Que Mopti soit doté d'un pôle judiciaire antiterroriste.
En réaction, le ministre de la Réconciliation nationale rassure les Mopticiens. Pour Zahabi Sidi Ould Mohamed, ses préoccupations ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd.
Je remercie très sincèrement ceux qui ont donné de très bonnes propositions que nous avions notées. Et je vous garantis que la mission elle fera un rapport détaillé au Premier ministre qu'on va aussi transmettre à l'Assemblée par rapport à toutes les questions qui ont été posées avec des propositions et on va renvoyer une copie au gouverneur ici pour le suivi.
La délégation ministérielle et parlementaire s'est rendue dans l'ensemble des 8 cercles que compte la région. Mais il faut noter que pour aller dans les cercles de Tenenku, Yoru et Douanza, les membres du gouvernement ont emprunté un hélicoptère, ce qui témoigne de l'insécurité qui sévit dans le delta intérieur du Niger et de l'état défectueux de la route Sévaré-Douanza. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
En Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz a été réélu président de la République en 2014 pour un deuxième et dernier mandat de 5 ans. Malgré cette limitation constitutionnelle, certains ministres de son gouvernement ont clairement laissé entrevoir la possibilité d'une révision constitutionnelle pour lui permettre de briguer un troisième mandat. L'opposition a réagi et parle d'une tentative de tripatouillage de la loi fondamentale pour faire obstacle à l'alternance. Les explications de notre correspondant à Nouakchott, Brahim Dia.
Au terme de la Constitution, le président de la République est rééligible une seule fois. Toujours au terme de cette loi, aucune procédure de révision ne peut être engagée si, entre autres, elle met en cause le principe de la limitation des mandats présidentiels à 2. Malgré ces dispositions, le ministre de la Justice, Brahim Ould Dada, face aux députés à l'Assemblée nationale, a laissé entrevoir la possibilité de mandats supplémentaires pour le chef de l'État.
Les citoyens le savent, il y a un gouvernement qui a tant fait et il y a un président de la République qui a des projets, une vision pour le pays et pour l'État. Le peuple en général, la majorité, l'opposition doivent demander à ce président d'augmenter ses mandats.
Quelques jours après, Mohamed Lemine Oulcheikh, ministre porte-parole officiel du gouvernement, ajoute, je le cite, « La volonté du peuple est au-dessus de la Constitution. C'est le peuple qui a voté cette loi, il peut la réviser. » Fin de citation. Une partie de l'opposition, réunie au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité, a mis en garde contre les risques de ce qu'elle appelle une tentative de passage en force au mépris de la loi. Mahfoud Oulbetta, président du pôle politique de ce forum.
Nous rejetons purement et simplement cette entreprise. Nous la condamnons avec la plus grande vigueur. Nous faisons assumer personnellement aux ministres qui ont exprimé cette idée une responsabilité historique.
Le FNDI, qui était dans une logique de dialogue avec le pouvoir, a rompu tout contact avec lui. Mahfoud Oulbetta.
Nous fermons la porte à tout contact avec le pouvoir, tant qu'il n'a pas déjugé de façon claire ses ministres.
Après sa réélection, Mohamed Ould Abdelaziz, en prêtant serment, a juré par Allah de ne point soutenir une entreprise visant la révision de la Constitution sur la limitation des mandats à 2. Dans une république islamique, on imagine la portée de ce serment. Mohamed Ould Abdelaziz figurera-t-il sur la longue liste des présidents africains qui ont changé les règles du jeu avant le match pour se maintenir au pouvoir? On le saura en 2019, date de la prochaine élection présidentielle en Mauritanie. Brahim Dia, à Nouakchott, pour La Voix de l'Amérique.
Deux détenus de la prison américaine de Guantanamo ont été transférés au Sénégal. D'après les autorités américaines, il s'agit de deux Libyens, Salem Abdou Salam Guerebi et Omar Khalif Mohamed Abdou Bakr Manjou Oumar. D'après le New York Times, ils auraient eu des liens avec Al-Qaïda et un groupe libyen de combattants islamistes. Le Sénégal met en avant sa tradition hospitalière et le fait que ces deux hommes ont été détenus 14 ans sans procès. De Guantanamo, on écoute Reed Brody de l'organisation Human Rights Watch.
Il y a deux Libyens qui sont à Guantanamo depuis 14 ans qui ont été transférés vers le Sénégal. Comme vous le savez, le président Obama essaie de vider Guantanamo peu à peu. Et en fait, la décision du Sénégal d'accueillir ces deux Libyens aidera beaucoup. C'est un geste humanitaire important. Ces deux Libyens qui ont passé 14 ans donc sans jugement, en violation du droit international, sont désormais au Sénégal.
Maintenant, il reste combien de détenus à Guantanamo où vous vous trouvez?
Il reste 89 personnes. personnes. Il y avait à un moment donné presque 800, 779. Le reste ont été peu à peu libérés. Mais en fait, il y a des personnes comme ces deux Libyens qui sont à Guantanamo que même le gouvernement américain a estimé ne représentent plus un danger pour la sécurité, mais qui n'ont pas pu être libérés parce que leur pays d'origine, que ce soit la Libye ou autre, ne peut pas les accueillir pour une raison ou pour une autre.
Le Sénégal, qu'est-ce qu'il obtient en échange?
Ben ça, on ne le sait pas. Il y a certainement des considérations. Je pense que c'est d'abord une geste humanitaire qui donne à ces hommes la chance de commencer une nouvelle vie, qui aidera à guérir le mal causé par 14 ans de détention injuste. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont accepté d'accueillir des anciens détenus de Guantanamo, l'Allemagne, la France, le Ghana, il y a deux mois, qui a accepté deux personnes de Guantanamo. Donc, je pense que les pays qui sont attachés aux droits humains, les pays qui sont attachés aux principes de l'état de droit, aident en fait les États-Unis, aident Obama à réparer ce mal.
Obama avait promis en 2009, quand il est arrivé au pouvoir, qu'il allait fermer Guantanamo. Et là, il lui reste moins d'un an. Est-ce que vous pensez qu'il arrivera à respecter sa promesse?
Non, je ne crois pas. Les républicains l'empêchent. Enfin, il y a plusieurs problèmes. D'abord, un problème politique, c'est que le Parti républicain n'accepte pas que ceux qui ne peuvent pas être envoyés dans un tiers pays soient envoyés même dans une prison des États-Unis. Mais pour nous, ça ne résoudra même pas le problème. Parce que même l'administration Obama n'envisage pas de libérer tout le monde. Même le plan Obama ne consiste qu'à transférer les personnes de Guantanamo vers des prisons américaines, mais pas de les juger. Et ça, c'est le problème. Pour nous, Guantanamo est une débâcle historique, politique et juridique.
Reed Brody, porte-parole de l'ONG Human Rights Watch.
Gariba kan wal modiba 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 talibi za daino ta alfa
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production Joselle Morissin, au micro Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec les Nigériens Mamar Kasset et le single Alatoumi. Bonne soirée et bonne nuit à tous.